l'immuabilité de Dieu. Dieu ne change pas. Nous, on est appelés à aller de gloire en gloire avec lui. Et nous changeons. Nous sommes en perpétuel changement. L'omniprésence de Dieu. Ça, c'est des attributs incommunicables, des qualités de Dieu qui sont uniques à lui. Il n'y a aucun être, nulle part dans l'univers, qui possédera jamais ces qualités-là. Voici quelques exemples d'attributs communicables. Comme j'ai dit, l'amour, la connaissance, la compassion, la justice. Oui. Excuse-moi, tu es quasiment cogné.
On parle du nourrisson qui va être avec le lion et tout ça. Comment se fait-il qu'il y ait des enfants si tu dis que l'homme et la femme seront comme des anges?
Ça, c'est une bonne question. On est loin des attributs de Dieu. Tu es en train de me demander, est-ce qu'il va y avoir des naissances dans le millénium? Est-ce qu'on est dans le millénium ou on est dans l'éternité? On n'ira même pas en profondeur là-dedans dans la dernière doctrine qu'on va voir dans ce cours-ci, où on va à peine effleurer ça. Mais c'est le genre de choses qu'on voit dans le cours de Stéphane. Oui, c'est toute la question, où est-ce qu'on est? Où est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est dans le millénium ou après, puis tout ça? D'accord? OK, alors, donc simplement deux catégories. Les attributs que Dieu veut nous communiquer, ses qualités qu'il veut nous communiquer et celles qui sont uniques à lui. D'accord? Mais ce sont tous des attributs de Dieu, des manières de connaître sa personne, ses qualités. Alors, premier attribut incommunicable de Dieu, l'indépendance de Dieu. L'indépendance de Dieu est définie comme suit. Dieu n'a pas besoin de nous, ni du reste de la création. Cependant, nous et le reste de la création pouvons le glorifier et lui procurer de la joie. Alors, juste un petit commentaire. On aurait pu arrêter la définition de l'indépendance de Dieu à « Dieu n'a pas besoin de nous, ni du reste de la création. Okay? » Puis là, commencer à expliquer tout ça. Souvent, lorsqu'on essaie de définir qui est Dieu, il y a un danger, si on ne met pas de nuance, de mal comprendre ce que ça veut dire. Par exemple, l'indépendance de Dieu adresse toute la question « Est-ce que Dieu avait besoin de créer l'univers tel qu'on le connaît? » Est-ce que Dieu était là dans l'éternité, puis il y avait un grand vide dans son cœur parce qu'il souffrait d'une solitude éternelle, puis il était devant son foyer, puis il s'est dit, ça me prendrait des amis, fait que je vais faire l'univers. Non, c'est pas comme ça que Dieu nous est présenté, d'accord? On va le voir ensemble dans des passages. Dieu est indépendant. C'est le seul être de tout l'univers qui est totalement indépendant, qui avait besoin de rien. On pourrait comprendre de ça, que Dieu est impassible, ça veut dire qu'il est inatteignable. Dans le fond, Dieu est indépendant, tu ne peux même pas l'affecter. Ce serait faux. Ce n'est pas vrai, la Bible nous dit qu'on peut réjouir Dieu, on peut attrister Dieu. Donc même si Dieu est indépendant, il n'est pas indifférent. Est-ce que vous me suivez? Oui? Je sens que vous auriez tous eu besoin d'un autre café. Non? Je regarde vos yeux, là, puis j'ai vraiment l'impression de donner un cours de philo au cégep. Alors, tout ce que je voulais mentionner, c'est que... Oui, c'est bon, Gilles. Dans 20 minutes, ça prend à peu près ça pour que la caféine rentre. Une chose très sage que Grudem fait, c'est que lorsqu'il nous donne une définition, il apporte toujours la nuance dans sa définition. Alors, vous allez remarquer dans tous les attributs qu'on va voir, il nous dit ce que c'est, puis en même temps, ce que c'est pas. D'accord? Alors, si je regarde la définition que j'ai ici... Dieu n'a pas besoin de nous ni du reste de la création. Cependant, nous et le reste de la création pouvons le glorifier et lui procurer de la joie. Okay? Il apporte toujours juste la nuance pour éviter qu'on ait une fausse compréhension de ça. Ça va? La parole de Dieu nous enseigne clairement que Dieu n'a aucun besoin de la création pour son existence et son épanouissement. Il serait faux de croire que Dieu avait besoin de la création. Cette vision de Dieu est probablement le fruit de notre propre projection, imaginant que nous expérimenterions de la solitude et un besoin d'être admirés et appréciés. Par exemple, si je comprends pas bien l'indépendance de Dieu, je pourrais voir dans le fait que Dieu veut être glorifié, que Dieu veut être adoré, comme quelque chose qui a besoin, tu sais. Dieu avait besoin de ça. Nous autres, on a tous besoin d'être admirés, hein? Je veux dire, moi, j'ai besoin que les gens me disent, Yannick, t'es bon, je suis content, je suis fier de toi, Yannick. J'aime ça qu'à la fin de la journée, mes enfants ils me disent hey, « Moi, j'ai un bon papa. » Puis j'ai besoin de ça. Les Écritures nous enseignent que Dieu n'avait pas besoin de ça. Il est Dieu. Il n'avait pas besoin de ça. Si je ne comprends pas l'indépendance de Dieu, j'arrive dans une espèce de vision d'un petit Dieu grec là, qui s'ennuie au ciel, puis il est tanné de jouer au dé tout seul avec lui-même, puis là, il se dit, ce serait le fun d'avoir du monde qui m'applaudit quand je fais un bon coup de dé, tu sais, fait qu'on va se créer des applaudisseurs. On va se faire un fan club, tu sais. Comprenez? Si je projette mes besoins à moi d'être admiré, parce que moi, je suis pas indépendant. Moi, je suis dépendant. Nous, on est interdépendants. D'accord? Mais Dieu, c'est celui qui est, avant toute chose, complet en lui-même. Dieu n'était pas incomplet, il manquait pas quelque chose à Dieu avant qu'il crée l'univers. Et donc, lorsque Dieu nous demande de venir l'adorer, c'est pas une vedette de cinéma là, tu sais, qui carbure aux applaudissements. Il n'avait pas besoin de ça. Parce que c'était la meilleure chose. Diane pose une bonne question. Je vais te répondre la question philosophique à ta question, là, mais c'est la question, c'est la réponse biblique aussi. Diane a dit pourquoi il l'a fait d'abord. Quand vous demandez pourquoi Dieu a fait quelque chose, le chemin le plus court sur lequel se rabattre, c'est parce que c'était la meilleure chose à faire. Okay? Philosophiquement, c'est toujours le chemin le plus court. Après ça, on va dans les Écritures et on comprend pourquoi. Mais pourquoi Dieu a fait quelque chose? Parce que c'était la meilleure chose à faire. Dieu fait tout à perfection. Et donc, parce qu'il était admirablement extraordinaire, puis il est généreux aussi, et il a voulu qu'on participe à sa gloire. Juste un instant, Bertrand.
Je pense que Dieu est content qu'on soit reconnaissant.
Absolument.
Ça lui procure de la joie dans notre reconnaissance.
Absolument. Et donc, c'est là dans la définition. Vous voyez, on peut réjouir Dieu. Mais ceci n'implique pas que Dieu était malheureux sans nous. Si Dieu était malheureux sans nous, il n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est un être, c'est une créature comme nous. Si Dieu n'était pas entier sans l'univers, bien, il n'est pas Dieu. Tout simplement. Puis ça, tous les philosophes vont le reconnaître. Maintenant, les Écritures l'attestent aussi. On va arriver au passage biblique.
Le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment tu mets les deux ensemble. Là.
Tu veux-tu juste répéter le début de ta phrase?
Je dis en même temps, on peut faire de la peine à Dieu en attristant le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment oui. On peut mettre les deux ensemble.
Alors, c'est pour ça, c'est excellent comme question. Okay? Puis c'est pour ça que vous avez la deuxième partie. Regardez avec moi la définition encore une fois. Là. Dieu n'a pas besoin de nous ni du reste de la création. Cependant, nous et le reste de la création pouvons le glorifier et lui procurer de la joie. Implicitement, on peut l'attrister aussi. OK? Alors, l'indépendance de Dieu, là, je vois que vous commencez à vous réveiller. L'indépendance de Dieu, ce n'est pas l'impassibilité de Dieu. Dieu n'est impassible, ça veut dire qu'on ne peut pas affecter. D'accord? Dieu n'est pas un être inatteignable, inaffectable, qui est impassible, qu'on peut pas, à qui on ne peut pas procurer ni joie ni peine. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que Dieu est sans qu'il y ait rien d'autre. Et Dieu n'avait pas besoin que quoi que ce soit d'autre existe avant que pour son bonheur à lui. Là, j'ai Samuel, puis après ça, j'ai. Là, on va vite aller voir les textes parce qu'on va embarquer dans un débat philosophique. Vas-y, Sam.
Fait que dans le fond, si je comprends bien, c'est il faut juste faire la nuance entre un besoin et un plaisir. Dans le fond,
oui?
que Dieu n'a pas besoin de nous, mais il prend plaisir à nous.
C'est une très bonne nuance. C'est très bien résumé. C'est excellent. Donc, s'il est indépendant, il n'a pas besoin, mais cela ne veut pas dire qu'il est impassible, qu'il n'est pas atteignable, qu'on ne peut pas lui apporter de la joie ou de la tristesse.
Tu me réponds tout à l'heure que c'est parce que c'était la chose qu'il avait à faire, puis qu'il a créé quelque chose de parfait, autrement dit. Mais
non, je dis qu'il était parfait.
Il n'a pas créé un monde parfait, parce que regarde la situation actuelle. Si le monde avait été parfait, s'il avait créé quelque chose de parfait, on n'en serait pas là.
OK, mais c'est ça, c'est un autre débat dans le sens que ce que Dieu a créé était parfait, OK? Puis l'homme a corrompu par le péché. Le péché est intervenu. Maintenant, c'est ça. dans notre définition à nous de la perfection, il ne faudrait pas qu'il y ait la croix. Je m'explique. Si je prends là, ce que tu apportes comme idée au niveau de la perfection, là, il ne faudrait jamais qu'il y ait l'histoire de la rédemption. Dieu crée un monde où il ne manifestera jamais la grâce. On n'aurait pas besoin. Maintenant, Dieu fait tout à perfection et il le fait pour sa gloire. Et ce qui manifeste le plus la gloire de Dieu, c'est la rédemption, c'est la croix. Et donc, à travers un monde qui est dévasté par le péché, le fruit du choix de l'homme, on voit que Dieu va faire éclater sa gloire. Lorsqu'on saisit ces choses-là, malgré tous les drames humains qu'il y a autour de ça, là, à un certain moment donné, tu réalises que Dieu est en train d'écrire, de peindre une fresque, une toile. J'ai déjà donné cette image-là. Dieu est en train de peindre une fresque, une toile immense. C'est un Michel-Ange exposant infini, où Dieu est en train de montrer sa gloire. Et pour montrer sa gloire, toute sa majesté, il faut qu'il y ait l'histoire de la rédemption. Parce que l'histoire de la rédemption, c'est non seulement la sainteté de Dieu, mais c'est l'amour et la grâce de Dieu. C'est l'amour et la grâce d'un Dieu qui lui-même vient mourir sur la croix pour le salut des hommes. Et donc, dans cette fresque-là, dans cette toile-là, il y a cette période de souffrance où l'homme se rebelle puis crache au visage de Dieu. Puis en plus de ça, l'homme se dit, « T'es un méchant Dieu en plus. » Non seulement tu nous as créés, non seulement tu vas mourir sur la croix pour nous, non seulement tu nous as laissé faire des choix par nous-mêmes, mais en plus, tu es un méchant Dieu. Fait que ça, c'est la fresque que Dieu est en train de peindre. Puis dans l'éternité, ce qu'on va célébrer, c'est cette fresque-là. Fait que Dieu fait toute la perfection, même si dans cette perfection-là, il y a l'homme qui essaie de détruire, puis le diable qui essaie de détruire, Dieu va faire concourir ça à la manifestation de sa gloire. Je ne sais pas si ça aide un petit peu. OK. Acte 17, 24 et 25. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. » Donc, Paul est en train d'expliquer aux Athéniens que Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Parce que leur Dieu à eux avait plein de besoins. Hein? Vous vous rappellerez, les dieux des Grecs avaient toutes sortes de besoins qui étaient le fruit de l'imagination de l'homme. Ils s'imaginaient des dieux à leur ressemblance. D'accord? Tout ce qui existe provient de Dieu, et Dieu seul est entièrement indépendant par nature. Tout ce qui existe dans l'univers vient de quelque chose. D'accord? Tout. Nous, les chaises qu'on a ont été créées à partir de matières qui existent. Le soleil qui est là vient d'une matière. On est capable de voir l'évolution de la matière. Tout ce qui existe dans l'univers a été créé à partir de quelque chose. Donc, dépend de quelque chose d'autre pour son existence. Chez nous, on a une amaryllis qui est en train de sortir en fleurs. C'est extraordinaire. Mais je veux dire, cette fleur-là, dans toute sa beauté, est totalement dépendante. La fleur dépendait d'un bulbe, elle dépendait d'un jardinier, elle dépendait de conditions. Elle n'est pas indépendante. Par nature, tout ce qui existe dans l'univers est dépendant. D'accord? Une belle image chez nos enfants. Ils sont totalement dépendants. Mais je veux dire, même lorsqu'ils vont être indépendants, ils vont être encore dépendants. Sors-les de la terre juste un instant, puis laisse-les flotter dans l'espace. Juste une minute. Vous allez voir qu'ils sont dépendants. Que nous sommes dépendants. Dieu est le seul être dans l'univers qui est totalement indépendant par nature. Il est. Point. Et là, vous vous rappellerez, c'est comme ça qu'il se présente. Je suis celui qui est. D'accord? Apocalypse 4, 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur. L'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Toutes choses ont été créées par la volonté de Dieu. Dieu était là avant toutes choses. D'accord? Dieu se présente lui-même comme celui qui est. Nous y trouvons donc une déclaration implicite de son indépendance. Dans Exode 3, 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Je suis. Il est le seul qui peut dire ça. Quand nous, on doit tous dire « je proviens de ». Je viens de mes parents, je viens de mes arrière-grands-parents. La terre doit dire « je proviens de ». Les arbres doivent dire « Je proviens de ». Dieu est. Pardon? Ben, on va voir justement une bonne question. Diane a dit « C'est le Père ». Je ne sais pas si c'est ici que je vais citer, c'est un petit peu plus loin. Mais Jésus va s'approprier lui-même cette déclaration-là. Avant qu'Abraham fût, je suis. Oui. C'est Dieu. On va voir plus loin que Jésus s'attribue une déclaration aussi grosse que « Je suis celui qui suis ». D'accord? Oui. Oh, ça, c'est une super bonne question. Est-ce qu'il y a des attributs qui sont spécifiques à l'un ou à l'autre, à l'une ou l'autre des trois personnes de la Trinité? Je pense que les trois possèdent les mêmes attributs. Là. J'essaie juste de trouver s'il y a une faute dans ce que je viens de dire, là, mais ils ont des rôles différents. Alors, on va dire... la manière qu'on comprend ça à partir des Écritures, par exemple, Jésus lui-même va dire « Avant qu'Abraham fût, je suis », puis on comprend qu'il est en train de citer Exode, le même passage que vous avez ici, Exode 3,14. Donc, Jésus est en train de dire que lui-même, même s'il procède du Père, il est, lui aussi, comme le Père est. Donc, on va dire qu'il possède les mêmes attributs, qu'il possède la même nature, mais qu'ils ont des rôles différents à l'intérieur de la Trinité. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est la manière que les théologiens essaient de le comprendre, d'accord? Parce que la Trinité, c'est quand même un mystère, là. On essaie de comprendre du mieux qu'on peut à partir des Écritures. C'est dans leur rôle qu'ils sont différents. Alors, Christ, dans son rôle, par exemple, dans Jean 1, Jean dit que Christ est le Logos, il est la parole. Et donc, ça nous aide à comprendre c'est quoi le rôle du Fils. Le rôle du Fils, c'est celui qui manifeste Dieu devant nous. C'est lui qui est apparu en chair, c'est certainement lui qui fait entendre la voix de Dieu dans Genèse 1 au moment de la création, parce qu'il est la parole, et la parole est avec Dieu depuis le début. Alors, dans son rôle, c'est lui qui est, je vais le dire un peu comme ça, là, mais c'est lui l'interface de Dieu. D'accord? Pour ceux qui peuvent comprendre de quoi je parle. Là. Mais c'est lui l'interface, en quelque sorte, de Dieu. Et donc... est-ce que ça veut dire qu'il est moins saint? Non, ce ne serait pas juste de le dire, puisqu'on va avoir d'autres passages qui vont nous montrer que l'agneau est très saint. Le plus quoi? Le plus difficile, disons, à saisir, ça tu veux dire? Ce serait l'Esprit Saint. Je ne sais pas, Dieu le Père est assez... c'est juste que là, on a une idée d'un Père, fait que c'est une image qui nous parle, c'est sûr. Par contre, l'esprit, on a l'image de notre esprit à nous. C'est ça. Ils ont des rôles différents. Mais on n'est pas dans la doctrine de la Trinité. On y reviendra. C'est d'excellentes questions. On va parler de la doctrine de la Trinité. Au milieu de la page 4, ou à peu près, nous ne devons pas pour autant déduire que Dieu soit impassible, comme je l'ai dit, devant la création et l'homme. La parole de Dieu nous enseigne aussi que cependant, nous et le reste de la création... pouvons le glorifier et lui procurer de la joie. Pardon. L'humanité et la création importent à Dieu. Dieu n'est pas désintéressé ou inatteignable par la création. Nous avons été créés pour sa gloire et nous trouvons donc le sens même de notre existence dans le fait que nous pouvons glorifier Dieu et qu'il peut trouver sa joie en nous. Dieu est le seul qui est indépendant, mais Dieu n'est pas inatteignable. Dieu n'est pas impassible. Dieu peut, comme Samuel l'a bien résumé tantôt, Dieu n'avait pas besoin de nous, mais nous pouvons procurer de la joie à Dieu. Nous pouvons le glorifier. Et le sens même de notre existence et de toute la création, c'est justement qu'on peut glorifier Dieu et qu'on peut lui apporter de la joie. D'accord? Ça, c'est le sens de notre existence, mais de toute la création. Avant que l'univers existe, vous avez celui qui est. Il est parfait. Parfaitement saint, glorieux, totalement indépendant, parfaitement amour. En plus de ça, il était trois dans le party. Parce qu'on a la Trinité. Là, on le découvre plus tard. Il n'a pas besoin de nous. Puis là, il crée un univers qui va contribuer à sa gloire et qui va trouver tout son sens dans la gloire de Dieu. Parce que Dieu est parfait. C'est là qu'on trouve le sens de notre existence. C'est à glorifier Dieu. On a été créé pour lui. C'est lui le centre, si je peux dire, de l'univers. C'est le centre de tout. Et là, si vous voulez comme juste ramener ça vers le texte biblique rapidement, bien, vous allez dans le jardin d'Éden, puis la première tentation, la première proposition, celle que Satan fait, c'est « Non, pourquoi Dieu serait le centre? Pourquoi est-ce que toi, tu ne serais pas le centre de ton univers? » C'est en fin de compte, c'est ça la proposition. D'accord? Le péché se résume à ça. C'est l'orgueil de dire « Bien que je sois ta création, tu ne seras pas le centre de mon univers. Je vais être le centre de mon univers. » Ésaïe 62, 3 à 5. « Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. » Là, il est en train de parler du peuple. Okay? Je veux juste vous montrer que si on comprend par l'indépendance de Dieu que Dieu n'est pas affectable par nous puis qu'on ne peut pas lui apporter de la joie, c'est mal comprendre cette doctrine-là, cet attribut-là. Alors, il parle du peuple de Dieu. Et voici ce que le prophète dit. « Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on l'appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme ta fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » D'accord? Alors Dieu nous a vraiment créés pour sa joie. Notre vie trouve son sens à glorifier Dieu et à être un sujet de joie pour lui. C'est là que notre vie trouve son sens. Sophonie 3, 17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » J'écoutais un chant d'un chanteur chrétien, puis évidemment, je suis toujours un petit peu critique quand j'écoute pour voir, c'est-tu correct, c'est correct? T'sais. Puis là, il décrit la naissance de quelqu'un, puis il dit, « Le début de ta vie a été ma plus grande joie. » C'est pas tout à fait juste. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire ici dans Sophonie, par contre? Il dit, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Dieu est loin d'être impassible. D'accord? Dieu est loin d'être indifférent. Au contraire, lorsqu'il voit quelqu'un qui vient à lui, qui se repent, puis qui chante ses louanges, tantôt on va chanter les louanges de Dieu. Ça fait la joie de Dieu, ça. D'accord? Alors, je pense que la bonne réponse à la question de Madeleine, c'est Samuel qui nous l'a donnée. Dieu n'a pas besoin de nous. Comment tu l'as dit? C'est ça. Alors, Dieu n'a pas besoin de nous, mais on peut lui procurer du plaisir en glorifiant. C'est bon? L'immutabilité de Dieu ou l'immuabilité de Dieu, j'ai vu les deux là. Définition, Dieu est immuable dans son être, ses perfections, ses desseins et ses promesses. Cependant, Dieu agit et éprouve des émotions et il agit et s'émeut différemment en réponse à différentes situations. Alors, il y a toujours comme la déclaration puis la contrepartie. Dieu est immuable dans son être, ses perfections, ses desseins et ses promesses. Dieu ne change pas. Il y a une fausse doctrine qui est sortie il y a à peu près une dizaine d'années puis qui a couru dans le milieu évangélique. Puis elle est encore là. On appelle ça « process theology ». Puis cette pensée-là veut que Dieu soit en constante évolution. Puis ça les rassure de voir Dieu comme ça pour plein de raisons parce que, je veux dire, si Dieu est en constante évolution, Dieu peut être parfaitement amour puis juste être en train de s'adapter à la méchanceté de l'homme. Tu sais, c'est comme, ça vire mal, puis il l'avait pas vu venir, celle-là. Fait qu'il est en train de s'ajuster, puisqu'il est parfaitement mort. T'as pas à faire face au fait que, oh, mais Dieu savait ça. Tu sais, la question de Diane tantôt. Si Dieu avait créé l'univers parfait, je veux dire, pourquoi il y aurait eu le péché? Ouais, mais Dieu est en constante évolution, il l'avait juste pas vu venir, celle-là. C'est Dieu, par exemple. D'accord? Ça, c'est process theology. C'est pas comme ça que les Écritures nous décrivent Dieu. Alors même si, quand on essaie de saisir qui est Dieu, même si on a des difficultés à comprendre, puis il y a des choses même des fois qui viennent nous choquer à l'intérieur parce qu'on se dit, ouais, mais si Dieu est comme ça, ça veut-tu dire que? Je viens devant les Écritures puis je dis, Dieu, révèle-toi à moi. Puis honnêtement, je veux dire, parce que mon cœur est troublé, là. Je veux dire, hier matin, je faisais mon culte, puis je disais au Seigneur, je dis, Seigneur, honnêtement, je ne suis pas en paix avec les enfants qui souffrent dans le monde. Je comprends toute la théologie, mais mon cœur n'est pas en paix. Il y a plein d'autres choses que ça va, tu sais, puis c'est correct, puis je suis cool avec ça. C'est Dieu. Yeah, c'est Dieu. C'est ce qu'il fait, c'est cool. Mais ça, je ne suis pas là, tu sais. Je le disais à Dieu. Puis je disais, Seigneur, révèle-toi à moi. J'ai besoin de te voir comme tu es, puis comprendre ce que tu fais avec l'univers comme toi tu veux le faire. Vous voyez, alors, je ne sais pas comme de déformer ou de me créer un autre Dieu parce qu'il y a des aspects de Dieu qui me fatiguent puis avec lesquels je ne suis pas à l'aise. Humblement, je viens devant celui qui s'est fait connaître à nous par sa parole. Puis je dis, fais-toi connaître à moi. Oui, Wamba. Oui, oui. C'est là qu'on s'en vient, exactement. Exactement. L'immuabilité de Dieu et l'éternité de Dieu, c'est deux attributs de Dieu qui sont très près l'un de l'autre. D'accord? Parce que Dieu est à l'extérieur du temps.
Est pas actuel, puis c'est faux.
Alors ça, c'est une des applications. Veux-tu juste répéter ça? Les gens qui disent, on est en... Je vais le répéter. Les gens qui disent, puisqu'on est en 2011, la Bible n'est pas actuelle. Mais si je comprends bien l'immuabilité de Dieu, ça veut dire que la Bible est autant pertinente maintenant qu'il y a 2000 ans ou qu'il y a 6000 ans. Parce que les desseins de Dieu ne changent pas, les pensées de Dieu ne changent pas. Ce que Dieu veut faire, ça ne change pas. La culture peut changer, mais ce que Dieu veut faire, le projet de Dieu, lui, ne change pas. Dieu est le même. Quand Dieu a inspiré les Saintes Écritures il y a de cela longtemps, Dieu connaissait les temps de maintenant puisque tous les temps sont devant lui en même temps. D'accord? Alors, les Écritures sont tout aussi pertinentes. Ça, c'est une implication pratique. Faites-vous en pas, le cours n'est pas toujours aussi comme... T'sais, ça va devenir avec des doctrines un peu plus pratiques, mais on est dans des concepts là, ce matin. Psaume 102... 26 à 28. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. D'accord? Alors, Dieu reste toujours le même. Toute chose se transforme, sauf Dieu. Dieu a créé la terre et les cieux, bien que ceux-ci nous ont longtemps semblé éternels. Hein, l'homme avait l'impression que la terre était le centre de l'univers, puis tout ça, puis il y avait une espèce de vision un peu éternelle de la terre. Il n'en est rien. Pourtant, Dieu, lui, ne change pas. Jacques nous dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change jamais. » Une des implications pratiques de ça, c'est que lorsque moi j'élève la voix dans la prière puis que je m'adresse à Dieu, je m'adresse exactement au même Dieu que David a prié. Et quand moi je dis « Père », c'est exactement le même Dieu que lorsque Jésus a dit « Père ». D'accord? Et lorsqu'on saisit cette doctrine-là, là, la distance qu'il y a avec les Écritures quand on lit la parole de Dieu, c'est comme si on voyage dans le temps puis on est là, là. Parce que Dieu ne lui change pas, il n'y a rien de changé. C'est juste la culture qui change. Le théologien néerlandais Herman Bavinck observe « La doctrine de l'immuabilité de Dieu est de la plus haute importance pour la religion, pour la foi si vous préférez. Le contraste entre être et devenir marque la différence entre le Créateur et la créature. Toute créature est continuellement en devenir. On est toujours en changement, nous. Elle est changeante. Elle lutte en permanence, cherche le repos et la satisfaction et trouve ce repos en Dieu, en lui seul, car lui seul n'est pas en devenir. Et l'image qu'il ressent qui est très... Oh, allô? L'image qu'il ressent qui est très bonne, c'est... Il dit, c'est pour ça que Dieu est souvent appelé le rocher. C'est pour illustrer le fait que Dieu ne bouge pas. Dieu ne change pas. D'accord? Nous, on est constamment en transformation, on est constamment en changement. Même dans l'éternité, il nous est dit qu'on va aller de gloire en gloire. D'accord? Fait qu'il y a même une idée de continuité. C'est pas comme si lorsqu'on va aller dans la présence de Dieu, on va être sorti de l'espace-temps. Ça semble pas fonctionner comme ça. Mais Dieu, lui, il change pas. Et ça, c'est notre sécurité. Ça, c'est notre sécurité. C'est le même Dieu qui a séparé les eaux pour Moïse. Ça, je suis pas sûr. On y reviendra. Ça je suis pas certain. Dieu change-t-il parfois d'avis? Alors, évidemment, là, si vous vouliez me challenger, vous pourriez penser à quelques textes où il nous est dit que Dieu allait faire ceci, puis Dieu, finalement, s'est repenti puis il a décidé de faire cela. Est-ce que ça veut dire que Dieu change d'avis? Moi, personnellement, la compréhension que Grudem en a me satisfait. Là. Il dit, les desseins de Dieu n'ont-ils pas changé dans ces situations? Avec justesse, Wayne Grudem voit dans ces situations de réelles expressions de l'attitude ou de l'intention initiale de Dieu à l'égard de la situation telle qu'elle se présente dans un premier temps. Si la situation change, alors bien sûr, l'attitude ou l'intention de Dieu change aussi. Cela veut simplement dire que Dieu réagit différemment dans des situations différentes. Ça ne veut pas dire que Dieu avait changé ses projets. Ça veut dire que Dieu répond dans le temps au comportement qu'on a, à l'attitude qu'on a. Et il est vrai là-dedans. Est-ce que vous m'avez suivi là-dessus? Sam est avec moi. Oui, ce serait une implication pratique. Exact. Oui, Marcel. Ah oui, puis un autre bon exemple, c'est un bon exemple, Marcel. Un autre bon exemple, c'est Jonas. Dieu dit à Jonas, là, je vais détruire la ville dans tant de temps. Maintenant, tu vas aller les avertir. Quand ils se repentent, Dieu ne détruit pas la ville. Est-ce que ça veut dire que Dieu a changé d'idée, puis que Dieu ne savait pas ce qui allait se passer, puis que ses desseins ont changé? Non. Dieu est en train d'être... Nous, on s'inscrit dans le temps. Je viens à toi, Nicole. Nous, on s'inscrit dans le temps, puis Dieu suit la ligne du temps, puis il intervient avec nous dans le temps. Aujourd'hui, je suis rebelle. Dieu a des projets de me châtier. Demain, je me repens. Dieu a des projets de me bénir. Est-ce que ça veut dire que Dieu a changé d'idée? Non. Oui.
C'est okay. Si Dieu, mettons, comme on dit, on parle là, que Dieu, il sait tout, tu sais, puis tout, comme il savait déjà qu'il était pour changer d'idée, là, c'est ça, je comprends pas là, pourquoi qu'il rechange d'idée. Tu veux dire, il sait dans le temps. Il doit certain, notre vie est calculée, je pense.
Ben, c'est ça. C'est que Dieu interagit avec nous. Et nous, on vit dans la ligne du temps. Puis Dieu réagit sincèrement avec nous là où on est dans le temps. Fait que Dieu, si Dieu ne faisait pas ça, c'est comme si au début de l'existence de l'humanité, Dieu disait, il fait un calcul statistique, où, tu sais, il connaît la fin, puis là, il dit, bon, Nicole, elle va finir là. Fait que Nicole, je vais te parler selon la fin de ta vie. Tu sais, fait que, ou admettons quelqu'un qui va renier Dieu plus tard dans sa vie. Dieu sait qu'il va renier Dieu dans sa vie, fait que puisque ça va être comme ça, Dieu va se comporter avec lui comme quelqu'un qui va renier Dieu. Puis il ne bénira jamais. Non, il nous suit au jour le jour et il interagit avec nous au jour le jour. Maintenant, Dieu sait parfaitement où il s'en va. Il sait ce qu'il fait puis ses desseins ne changent pas. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'il est en train de mettre un masque pour jouer la comédie lorsqu'il est en relation avec nous? Ce ne serait pas juste. Il est vraiment en relation avec nous. Puis il est vraiment en train de dire Nénive, là, je l'ai détruit. Maintenant, va les avertir parce que je l'ai détruit. D'accord? Lui, il savait qu'il ne les détruirait pas. Ses projets ne changent pas. Mais il se sert de nous. On est là pour le servir, puis on est là pour aller avertir les gens, puis qu'ils se repentent. Oui, Sam.
Et Dieu ne change pas de personnalité, mais il peut changer d'idée de la manière qu'on la situation. Mais je veux dire, comme moi, dans une situation, je peux me une situation que j'aime pas, ben je vais me comporter d'une manière, puis une situation que j'aime, je vais me comporter d'une autre manière, mais ça fait pas en sorte que je change ma personnalité.
Oui, je comprends, mais c'est pas tout à fait juste parce que ses desseins sont éternels. Ses desseins, c'est ses idées, c'est ses projets. Fait que ses projets sont arrêtés depuis toujours. Il sait ce qu'il va faire. Fait comment ça se fait que dans un cas, il nous dit « je vais faire ça », puis dans un autre cas, il dit « mais là, finalement, je ferai pas ça, je vais faire ça ». Puis ses desseins étaient éternels. La manière que Grudem le comprend, c'est que Dieu est en vraie relation avec nous. Donc, il est vraiment en train de réagir à ce qui se passe dans la ligne du temps avec nous, même si lui sait exactement ce qu'il est en train de faire. Je peux pas vous donner une réponse plus claire. C'est un des... on essaie de saisir Dieu. Et honnêtement, c'est la meilleure explication que moi j'ai trouvée. Mais fait que j'avance, si jamais vous voulez comme aller un petit peu plus loin, je peux vous donner des pistes de lecture. Packer fait un bon travail là-dessus. Je suis pas mal sûr d'en connaître Dieu qu'il fait un bon travail. Le livre qu'on a survolé la dernière session, il faudrait que je vérifie, mais je pourrais vous diriger vers des bonnes lectures. D'accord? Est-ce que ça veut dire que Dieu enverrait des bénédictions à des non-croyants pour les amener à lui? Je ne suis pas sûr de faire le lien. Je ne suis pas sûr que je te suis. Je ne suis pas sûr de voir le lien. C'est sûr que Dieu bénit les non-croyants. Et puis, il se révèle à lui à travers ça. Le soleil se lève sur tout le monde. C'est des bénédictions de Dieu envers ceux qui le maudissent. Je veux dire, Dieu était bon envers moi avant que je sois chrétien. C'est clair. Je veux dire, j'avais des parents, j'avais un frère, j'ai eu de la joie, j'ai eu plein de bénédictions avant d'être chrétien. Fait que Dieu est bon même envers ceux qui le maudissent en face. L'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu peut être définie ainsi. Dieu n'a ni commencement, ni fin, ni succession de moments dans son être, et il voit toutes les époques aussi distinctement. Cependant, Dieu voit les événements dans le temps et agit dans le temps. Alors, Dieu est à l'extérieur du temps. C'est une des choses qu'il a créées. Dieu a créé le temps. Lui, il est à l'extérieur du temps. Dieu est à l'extérieur du temps, mais Dieu agit dans le temps. D'accord? Par exemple, un des passages qu'on cite, c'est que lorsque les temps ont été accomplis, Christ est venu. Lorsque les temps ont été accomplis, qui avaient été prophétisés, Christ est venu et s'est donné pour le salut des hommes. Donc, Dieu agit dans le temps. Dieu ne l'a pas fait avant, il agit dans le temps. Mais Dieu est à l'extérieur du temps complètement. Et pour lui, le temps, c'est une des choses qu'il a créées. Ce n'est pas quelque chose qui l'affecte. D'accord? Lui, il voit distinctement tous les temps en même temps. Une question pratique que Grudem pose à la fin, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Si Dieu est éternel, à quel moment est-ce qu'une louange que je lance à Dieu va comme lui partir de l'esprit? Moi, je loue Dieu aujourd'hui. Là. Moi, admettons, je m'envoie à Bertrand, là, puis je dis « Bertrand, là, t'es tellement un super travaillant, toi, puis t'as toujours un beau sourire. » Bien, ça va faire pour un temps. Il faut du temps passant, c'est vrai. Mais ça va faire pour un temps. Je veux dire, si Bertrand, je donne du travail, je donne du travail, je donne du travail, puis dans 3 ans, je dis « Un autre petit encouragement, mon Bertrand? » Bien, tu sais, dans le temps, là, lui, il fonctionne dans le temps, Bertrand, comme moi. Puis il dit « Bien, peut-être tu pourrais rapprocher un petit peu tes compliments. » Tu sais? Mais Dieu, lui, il est éternel. Dieu est éternel, il est hors du temps. À quel moment est-ce que ma louange commence à l'oublier? Il commence à l'oublier. Il est hors du temps. Lui, demain, c'est pas plus fatigant qu'hier, puis après-demain, c'est pas plus loin qu'avant-hier. Il est hors du temps. D'accord? Pardon? T'en auras pas. Mais ça aide aussi à comprendre des choses comme si je pêche aujourd'hui, là, quand est-ce que Dieu commence à être attristé par mon péché? Mais lui, il est hors du temps. Mon péché que je vais faire dans 3 heures, lui, il le voit toujours, depuis toujours, comme si c'était le moment présent. À quel moment est-ce que Dieu va commencer à être attristé? Il voit tout ça en même temps. Là où ça devient rassurant pour nous, ok, je vais essayer de le rendre pratique, là où ça devient rassurant pour nous, c'est que moi, je donne ma vie à Christ, puis j'essaie de marcher dans la sainteté. Puis là, aujourd'hui, je pêche. Puis je me repens. Mais là, demain, je pêche aussi. Puis là, je me repens. Puis là, après-demain, je pêche encore. Puis là, je me repens. Puis après-demain, je pêche encore. Puis là, à un moment donné, je dis, « Ouais, mais Seigneur, tu dois être tanné de me voir la bine. Ça n'a pas de bon sens. » Puis Dieu, lui, est là, puis il dit, « Yannick, quand tu as accepté Christ, moi, je connaissais tous tes péchés à venir comme tous tes péchés passés. Moi, je te vois à travers Christ. Le temps n'est pas quelque chose qui m'affecte. » Est-ce que vous me suivez? Oh, OK. Dieu connaît toutes les conneries que je vais faire encore. Il est à l'extérieur du temps. Puis il m'a élu en Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de rassurant. Moi, dans ma perspective à moi, je peux me trouver comme assez misérable, tu sais. Mais lui, il sait où est-ce qu'il s'en va. Le temps ne l'affecte pas. Il est à l'extérieur du temps. Dieu, pour lui, le moment où je vais entrer dans sa présence, accueilli par Christ, puis Christ va dire, lui, là, ça, là, c'est un des miens, là. Il est couvert par mon sang. Tu peux l'accueillir dans ta gloire. Il n'est pas affecté par le temps, mais c'est maintenant comme hier. Voyez-vous? Et c'est quelque chose qui peut fortifier notre foi lorsqu'on a des moments de découragement, de voir que Dieu nous voit à l'extérieur du temps. Il nous voit toujours. Tout à l'heure, je parlais de Jésus, parce qu'il y avait une question qu'Wemba avait posée. Est-ce qu'on parle des mêmes attributs pour les 3 personnes? Mais regardez Jean 5, 8. Je suis au bas de la feuille numérotée 5, la page 5. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Par cette déclaration, Jésus s'associe de manière explicite avec le nom même de Dieu que l'Éternel lui-même donne à Moïse pour le présenter au peuple. Dieu dit, moi, je suis celui qui suis. Puis Abraham, Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors Jésus est en train de déclarer qu'il possède cette qualité d'être éternel, comme le Père. D'accord? C'est pour ça que si vous présentez bien Jésus, que ce soit aux Juifs, que ce soit aux musulmans, je veux dire, c'est un objet de scandale, là. Jésus est Dieu. Point. Nous devons cependant garder à l'esprit que bien que Dieu ne soit pas affecté par le temps, il agit tout de même dans le temps. Alors ça, j'ai mentionné déjà le verset. Puis, je vais faire une petite course pour le dernier élément, l'omniprésence de Dieu. Dieu n'est pas limité dans l'espace non plus. Alors, il n'est pas limité dans le temps, il n'est pas limité dans l'espace. Voici comment nous pouvons définir, je m'excuse, cet attribut de Dieu. Dieu n'a pas de dimension spatiale et son être entier est présent en tout point de l'espace. Cependant, Dieu agit différemment en différents endroits. Dieu est partout, n'importe où, en tout temps également, il est partout. Ça serait une erreur aussi d'imaginer que Dieu est grand. Dieu est tellement, 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 tellement grand qu'il est partout. Fait que peut-être qu'au-dessus de Gilles, c'est le bout du doigt de Dieu, puis au-dessus de l'Afrique, c'est le bout du poignet de Dieu. Dieu est immense, tu sais. Non, non, non. Dieu est partout à la fois. C'est pas que Dieu est tellement grand, il est tellement vaste qu'il est plus grand que l'univers. Non, Dieu est omniprésent, il est partout à la fois. Son intelligence est disponible partout en même temps. Il est le seul être dans l'univers, le seul être qui a jamais existé qui est comme ça. L'ennemi de nos âmes n'est pas comme ça. Le diable n'est pas comme ça. Il n'est pas omniprésent. Puisque Dieu a créé le temps et l'espace, nous pourrions déduire par un simple raisonnement logique qu'il est hors de l'espace et qu'il n'est pas affecté par celui-ci. Pardon? Je suis à la page 6. Jérémie 23, 23, 24. « Ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? » Alors, Dieu est partout. Et puis, le passage que la majorité d'entre vous connaissait déjà, c'est David. La prière de David dans le psaume 139. « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Et ça aide à comprendre que le regard de Dieu est partout. Pas juste comme s'il était très, très grand, mais son attention est partout. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Alors Dieu est partout à la fois. Il n'y a nulle part sur la terre où Dieu n'est pas là. Une des applications de ça, c'est que Dieu voit vraiment les monstruosités qui se passent sur la terre. Parce qu'il les voit avec autant d'attention qu'il nous voit actuellement ce matin ici. D'accord? Lorsque tu prends ça, puis tu mets ça avec le fait que Dieu est parfaitement amour, ça t'aide à dire, il sait ce qu'il fait. Il sait où il s'en va. Il n'y en a pas échappé. Là. Actuellement, sur la terre, il y a des gens qui sont en train de se faire agresser. Là. Dieu voit ça et souffre de ça, de cette stupidité, de cette méchanceté de l'homme. Bon, pourquoi y attendre? Ça, c'est une autre question. Mais une fois que je sais que Dieu est amour puis que Dieu est omniprésent, sa face est partout, il voit tout, il n'y a rien qu'on peut lui cacher. La réponse biblique, la réponse de John Piper, c'est Dieu est en train de faire tout ça puis il prend plein de notes. Puis il est en train d'accumuler ce que j'ai dit l'autre fois dans mon cours, le connaître Dieu. Dieu est en train d'accumuler une montagne de colère pour châtier le mal. C'est ce qu'il est en train de faire parce que sa face est partout. Et c'est une des réponses qu'on doit donner aux gens qui disent « Ouais, mais où est-ce qu'il est Dieu? » Faites-en pas, il prend des notes. Il prend des notes pour tout ça et pour tout ce que toi tu fais aussi. Et il accumule, et il accumule, et il accumule. Va lire la fin de l'Apocalypse, tu vas voir qu'il accumule longtemps puis beaucoup. Et là, tu vas mesurer un peu qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps-là. Je vais te donner une piste de réponse. Tiens, on a dit comment il ne peut rien faire alors que nous, ça nous choque tellement de voir tout ce qui se passe. Bien, une des pistes de réponse, c'est le fait que Dieu est éternel. Puis Dieu est hors du temps et il connaît la fin de ces choses-là. Fait que quand l'homme fait le mal, Dieu connaît déjà le jugement de l'homme et ce qui l'attend. D'accord? Nous, on s'inscrit dans le temps puis on dit, ouais, mais Dieu, tu tardes. Je ne tarde pas, mes desseins sont parfaits, je suis à l'extérieur du temps. Continue ta ligne du temps. Un jour, toute bouche va se fermer. Ils vont dire, oh, t'étais Dieu. Il y en a qui vont dire, j'aurais dû t'adorer. Puis d'autres vont dire, merci Seigneur de t'être révélé à moi. D'accord? Ce passage nous aide aussi à comprendre que Dieu est entièrement présent en tout lieu, en tout temps. Lorsque David dit, je ne peux pas fuir loin de ta face, je ne peux pas fuir loin de ton attention. Ainsi, nous ne devons pas imaginer Dieu comme un être si grand qu'il couvre l'ensemble de l'univers, une petite partie de lui-même pour chaque centimètre carré. Dieu est entièrement présent en tout lieu, parce qu'il est hors de l'espace. J'ai plusieurs fautes, il faudrait que je le corrige. Il est intéressant que la Bible parle de l'omniprésence de Dieu. Là, je vais juste apporter une nuance qui est importante. Il est intéressant de noter que la Bible parle de l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout à la fois, mais elle parle aussi de présence particulière de Dieu. Alors, Dieu est partout, puis en même temps, Dieu va dire, « Je suis au-dessus de l'arche. » Là, il y a mon attention. Là. Mon attention est toujours là. Fait que Dieu est partout, mais en même temps, il y a des endroits où il est particulièrement présent. Puis les deux choses sont là dans la Bible. D'accord? Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Ouais, mais quand on n'est pas assemblé en ton nom, t'es-tu pas omniprésent? Non, je suis omniprésent. Mais il y a quelque chose de particulier dans sa présence. Là. Et en général, lorsque c'est décrit dans la Bible, c'est décrit pour bénir. Quand Dieu est particulièrement présent, en général, c'est pour bénir. Des fois, c'est pour juger, des fois, c'est pour punir. Pardon? Il était particulièrement attentif au moment où Uzza a voulu toucher à l'arche, c'est vrai. Parce que son regard est particulier. Peut-être que Uzza aurait voulu qu'il soit distrait à ce moment-là. Maintenant, je vais vous lire une citation encore de Herman Bavinck. Qui peut nous aider à voir comment vivre en paix avec l'omniprésence de Dieu, puis comment ça peut nous amener à marcher dans la sainteté. Je suis à la page 7, au haut de la page, le gros bloc. Lorsque vous projetez de faire quelque chose de mal, vous vous éloignez de la foule et vous vous retirez chez vous, là où personne ne peut vous apercevoir. Vous évitez les endroits de votre maison qui sont visibles de l'extérieur et vous vous retirez dans votre chambre. Même une fois dans votre chambre, vous craignez d'être vu par un témoin invisible. C'est Dieu. Vous vous retirez profondément en vous-même et vous méditez. Ce témoin invisible est là au plus profond de votre être. Par conséquent, où que vous alliez, il est là. Où allez-vous fuir loin de vous-même? Si à l'intérieur de toi-même, tu ne peux pas fuir Dieu, où est-ce que tu vas fuir? Votre être intérieur ne va-t-il pas vous suivre où que vous vous enfuyez? Mais parce qu'un témoin invisible se cache au plus profond de votre être, il n'existe aucun lieu où vous puissiez fuir. Allez-vous donc fuir loin de lui? Fuyez plutôt vers lui. C'est une bonne conclusion. Apprendre à vivre paisiblement sous le regard de Dieu qui est constamment là. Puisque je ne peux pas me sauver de lui, je ferais aussi bien de sauter dans ses bras. Puis juste de vivre le bonheur, la sainteté, c'est ça qu'il veut pour moi. Il veut que je sois heureux. Question pratique. Expliquer comment la doctrine de l'immuabilité de Dieu aide à répondre aux questions suivantes. Serons-nous capables de bien élever nos enfants dans un monde aussi corrompu que le nôtre, si Dieu ne change pas? Est-il possible d'avoir le même degré de communion avec Dieu qu'au temps biblique, si Dieu est immuable? Si vous péchiez contre Dieu aujourd'hui, quand commencerait-il à être attristé? À quel moment cesserait-il d'en être attristé? Cette réflexion vous aide-t-elle à comprendre pourquoi il est conforme au caractère de Dieu que le péché soit puni? Pourquoi a-t-il fallu que Dieu envoie son Fils pour subir la punition du péché? Je vous donne juste une piste là, à ce niveau-là. Si Dieu est hors du temps, l'espèce de vision que nous, on a de Dieu, dire, regarde Dieu, quand tu vas arrêter la terre, là, puis tu vas juger tous les hommes, pardonne toute la gang, parce que dans 3000 ans, de toute façon, tu ne te souviendras plus de nos niaiseries. Non, Dieu est hors du temps, lui. Hier, aujourd'hui, demain, c'est un même moment devant lui. Nos bonnes œuvres, nos péchés sont tous devant lui en même temps. Ça nous aide à comprendre la nécessité que le prix soit payé. La dette ne peut pas être effacée par le temps avec Dieu. Dernière question, si vous chantez des louanges à Dieu aujourd'hui, à quel moment Dieu cessera-t-il d'avoir conscience de vos chants et de s'en réjouir? Passage à retenir, le psaume 139, les versets 7 à 10. Alors, la semaine prochaine, on va regarder ensemble les attributs communicables de Dieu, ceux qu'il veut développer en nous. D'accord? Les notes devraient être sur le site comme demain, puis les notes corrigées éventuellement. Il y a tellement de fautes dans mon affaire. Mais je vais essayer juste de prendre le temps de corriger les fautes. D'accord? Merci. Merci. Juste vous assurer que si vous voulez être sur la liste d'envoi, que votre nom est sur la liste de présence. Merci.